Bonsoir tout le monde, les commissaires de course, on se met en mode Tour de France à 5 jours du départ de Nice. Aujourd'hui on va parler du parcours et des favoris. On va faire chronologiquement en fait, on va faire le parcours en essayant de voir qu'est-ce qui peut se passer pour le général, pour les classements annexes à chaque étape, etc. Pour en parler avec moi, Charles, bonsoir Charles.
Salut Ben et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver.
Également Daniel, bonsoir Daniel.
Salut à tous.
Et enfin Grégory, bonsoir Grégory.
Salut tout le monde.
Alors on va commencer par l'étape de Nice, la première étape donc de samedi, qui est tout simplement une boucle autour de Nice, ce qui est assez rare, avec la côte de Rimiès qui fait 6 km à 5%, une étape vallonnée Grégory et qui commence en bosse. Mais une étape qui devrait quand même voir les sprinteurs s'affronter parce qu'il y a peu d'étapes pour eux. Grégory ?
Oui, excusez-moi, j'ai un souci de son. Oui, bah, tout à fait. Les sprinteurs, ceux qui arriveront à passer sans encombre les premières côtes du parcours, parce qu'elles ne sont pas forcément extrêmement difficiles, mais il faudra quand même les passer. Et le peloton sera certainement très nerveux, mais effectivement, ce sera une occasion très rare d'ailleurs pour les sprinteurs d'essayer de se jouer la gagne. Et parmi eux, on devrait retrouver normalement quelqu'un qui a été très en forme au dernier championnat de France, Brian Coquart. On devrait retrouver aussi quelqu'un qui devrait avoir à cœur d'enfin se montrer cette saison à son avantage, c'est-à-dire la recrue événement de Cofidis, Elia Viviani, qui devrait normalement pouvoir essayer de remporter une étape. Et pas mal de sprinteurs pour les équipes françaises finalement, avec normalement, même si c'est si ça a été confirmé aujourd'hui, la présence de Nicolo Bonifazio aussi pour l'équipe Total Direct Energy. Et on aura aussi le sprinteur de chez NTT, Giacomo Nizzolo, récent champion d'Italie, qui devrait vouloir se mettre à son avantage. Donc, normalement, on devrait pouvoir avoir un peu de bagarre directement.
Un Tour de France qui est bien montagneux, avec beaucoup de dénivelé positif sur chaque étape. Et cette étape ne fait pas exception. Charles, la question quand on voit ce profil avec la dernière côte, bon, avec 6 km, on pourrait même parler de col. À 50 km de l'arrivée, bon après il y a une autre montée pour aller à Levain à 540 mètres d'altitude. Est-ce qu'il est, en considérant qu'il y a Charman qui est un favori pour le classement général, ou s'il n'est pas, Berman pardon, favori pour le classement général avec Bora et même Kamna, est-ce qu'on peut déjà exclure qu'une équipe comme la Bora de Peter Sagan puisse amener Grand Train comme il l'avait fait, souvenez-vous, en 2013 dans la Montagne Noire, c'était l'étape qui menait à Albi, pour éliminer des sprinteurs qui passeraient bien moins les petits cols comme Viviani, comme Bennett.
Ouais, je pense pas que la Bora mette en route, parce que tu l'as dit, hein, y a des ambitions avec Bourman, mais aussi c'est la première étape, donc peut-être qu'on attendra un peu de voir comment ça se passe. Mais à vrai dire, pour moi, la clé de cette étape, c'est, tu l'as dit, les 15 premiers kilomètres. Il y a un départ en montée, une belle montée, même si elle n'est pas difficile, elle est assez longue et elle donnera l'opportunité. 8 km. Elle donnera l'opportunité à des hommes forts de sortir. C'est-à-dire qu'on pourrait se retrouver avec un peu de chance, avec un gros groupe de costauds qui serait ensuite compliqué d'aller chercher, parce que pour s'organiser pour les sprinteurs, ça peut être dur s'il y a 15-20 mecs qui sortent, et de toute façon, on ne les rattrapera pas dans la bosse sous peine de larguer ces hommes rapides. Donc pour moi, c'est la clé de l'étape, c'est là qu'on verra si on aura une échappée ou un sprint, mais je vois pas un peloton complet, hein, sinon je vois au maximum une centaine de coureurs pour se jouer la gagne.
Alors, la question, c'est qui va rouler derrière les coureurs qui tenteront d'échapper. C'est quand même deux côtes de troisième catégorie, donc 4 points à prendre au meilleur grimpeur. Il y a un sprint intermédiaire au milieu. Daniel, une question, on les a vus rouler, être extrêmement forts au Dauphiné, c'est les Jumbo-Visma. Est-ce que, même s'il a un travail d'équipier à fournir, on ne pourrait pas voir, dès la première étape, Van Aert s'emparer du maillot jaune en remportant l'étape?
Oui, alors c'est pas totalement à exclure. C'est vrai que dans un premier temps, Van Aert, il a dit qu'il venait surtout pour faire l'équipier, pas d'ambition personnelle, surtout pour le placement du maillot vert. Puis là, plus récemment, il a dit que bon, il fera son travail d'équipier et s'il y a une opportunité ou deux, il essaiera de les saisir. Donc, oui, pourquoi pas dès la première étape. Après, moi, je suis pas persuadé que ça se joue vraiment dans le peloton ou au sprint parce que je trouve que l'étape est quand même assez dure, assez exigeante et il faudrait vraiment une alliance entre les équipes de sprinteurs pour pouvoir revenir s'il y a une échappée un peu costaude, si les équipes de sprinteurs se tirent dans les pattes entre celles qui passent bien la montagne et ceux qui passent moins bien la montagne, ça fera moins de monde à rouler dans le final. Je pense que ça peut être compliqué. Après, ça dépendra beaucoup de l'échappée. Bon, en tout cas, si regroupement il y a, oui, je pense que comme il n'y a pas d'étape décisive, vraiment, bon, c'est la première étape, et comme il n'y a pas vraiment d'étape décisive, les jours suivants, a priori. Bon, c'est sûr que là, c'est encore où Van Aert pourrait avoir plus de liberté qu'en troisième semaine.
Alors, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et en plus, j'ai regardé un peu la météo. Il pourrait y avoir de la pluie dès le premier week-end. Je ne parle pas de froid, je parle de pluie, peut-être de quelques gouttes. Mais bon, quand on sait que ce Tour de France, ben, tout le monde va être sur les nerfs, hein. C'est pas un Tour de France après 6 mois de saison. Là, c'est la reprise depuis un peu plus d'un mois. On ne sait pas ce qui va se passer et on va passer immédiatement à l'étape 2. La première étape est notée comme Nice, moyen pays Nice. La deuxième étape, encore une fois autour de Nice, Nice au pays Nice. Et pourquoi au pays? Parce que tout simplement, on a affaire à une étape de montagne, peut-être pas une étape de haute montagne, mais on va quand même aller tutoyer des sommets à plus de 1600 mètres d'altitude avec le col de Turini. Col de Turini qui sera précédé par le col de la Colmiane. Ceux qui regardent Paris-Nice se rappelleront que c'est des cols où on voit une vraie course. C'est des cols, alors 6,3% pour la Colmiane, mais sur 16 km. Et le col de Turini, c'est 15 km à 7,4%. C'est un vrai col de montagne. Et le final, on va aller chercher le col d'Aize de 8 km à 6%. Il y a également le col des 4 chemins avec des bonifications à son sommet avant de plonger sur Nice. C'est une étape finale superbe de Paris-Nice. À l'époque, là, on tombe direct sur la deuxième étape du Tour de France. Encore une fois, on ne sait pas trop quelle va être la météo, mais il se pourrait qu'il y ait également de la pluie. En tout cas, c'est ce qu'annoncent certains sites météo. Peut-être pas à l'heure où passera le Tour de France, mais bon, à une semaine. Il faut attendre de voir ce qu'ils disent. Un sprint intermédiaire quasi immédiatement. Daniel, est-ce que c'est la première grande bagarre entre favoris? Est-ce que ça va être une échappée à long cours qui va aller s'imposer? Compliqué de définir ce qui peut se passer pour les favoris sur cette étape.
Ouais, le Tour de France est vraiment très punchy, avec quand même des ascensions qui font souvent entre 5 et 10 km, même déjà sur la première étape, mais encore plus sur la deuxième, comme tu l'as souligné, c'est quasiment un peu de la haute montagne, enfin, de la moyenne montagne, mais assez longue. Bon, les favoris, évidemment, le but, c'est pas qu'ils, pour eux, c'est a priori, c'est pas de s'attaquer les uns les autres, mais bon, il y aura des attaques, que ce soit des coureurs pour gagner les étapes, des punchers, etc. Les favoris vont forcément suivre, donc ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui traînent un peu de peloton, ceux qui ont besoin d'un peu de temps pour vraiment se mettre dans la course, ils risquent d'être un peu cueillis à froid sur cette deuxième étape. Donc oui, dans tous les cas, il y aura des accélérations et de la bagarre et il y aura peut-être déjà des critiques.
Alors, ces premières étapes du Tour de France et Stradri, sur le chat en parle. Il dit il va rien se passer, pourquoi une équipe voudra accélérer dès la seconde étape. C'est vrai qu'on se souvient notamment en Bretagne des étapes où il y avait beaucoup de côtes et finalement c'était une élimination par l'arrière. Alors là on parle quand même d'une vraie étape de montagne, mais on est sur le Tour de France et je pense qu'on est sur un Tour de France où on va voir un peu comme le Dauphiné les premières étapes, c'est-à-dire ça va éliminer par l'arrière, mais ça va être un peu chiant à suivre jusqu'à ce que les gars soient bien fatigués et que ça commence à attaquer peut-être dans les Alpes. Toutefois, si on accepte les favoris, les Jumbo-Visma, les Ineos, Pinot, Berman et les autres, comme Pogacar, est-ce que Charles, on ne pourrait pas voir des coureurs comme Julian Alaphilippe? Alors certes, il y a des étapes comme le Col de l'Os qui vont lui poser des difficultés, mais c'est quand même des coureurs qu'on ne peut pas prendre non plus par-dessus la jambe, on ne peut pas lui laisser 10 minutes. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir des gars, je pense à Pierre Roland également, qui pourraient tenter d'attaquer et qui va rouler derrière pour maintenir l'écart?
Ben, je pense que oui. Enfin, je pense que déjà sur cette étape, on verra qui veut remporter le maillot de meilleur grimpeur. Parce que tu l'as dit, il y a deux belles ascensions, mais c'est aussi des ascensions qui vont rapporter beaucoup de points, surtout qu'il y aura derrière le Col d'Aise et le Col des Quatre Chemins. Donc je pense que si moi j'étais candidat au maillot à poil, j'irais dans cette échappée lors de la deuxième étape. Parce que s'il n'y a pas trop de bagarres, ça peut être des points assez faciles à prendre. Donc un Pierre Roland, oui, par exemple, ça peut être le candidat idéal. À la flip, j'ai du mal à le voir, à moins qu'il ait perdu volontairement du temps lors de la première étape. Mais je pense que les favoris du Tour ont quand même en tête que l'année 2019, et on ne laissera pas sortir un à la flip, parce que c'est quand même très, très risqué au cas où s'il montait en pression pour la suite.
À la flip, peut-être dans le final de l'étape pour prendre les bonifications.
Oui, si jamais il sortait dans le col des quatre chemins, là, je vois plus, ouais, comme tu le dis, un scénario comme ça, au cas où si on était dans la deuxième optique, c'est-à-dire un peloton de 40-50 coureurs qui arrive au pied du col des quatre chemins, et comme on l'avait vu l'an dernier quand il était sorti avec Pinot, là, on pourrait avoir 2-3 gros cadors qui sortent pour gratter des secondes et des bonifications.
Grégory, dans l'histoire, on va dire, récente du Tour de France, et pourtant je vais parler, je vais revenir 7 ans en arrière, une étape aussi difficile, dans les premiers jours, ben, je vois qu'en Corse, où peut-être vous vous souvenez que dans les cols qu'il y avait, mais qui étaient très loin de l'arrivée, la FDJ avait mis en route, mais la difficulté de l'étape n'était absolument pas comparable. Est-ce que toi, tu vois des coureurs qui ne visent pas le général tenter de mettre le boxon, peut-être des équipiers de coureurs, je pense notamment aux Education First, hein, qui ont quand même une équipe qui pourrait attaquer. Il y a Martinez qui a gagné le Dauphiné, qu'on ne peut pas considérer comme un favori, mais qui peut bouger, Higuita, tout ça. Ou est-ce que tu vois un round total d'observation et finalement une échappée de 5 coureurs, comme on voit au début du Tour de France, reprise dans la descente du col de Turini pour que les favoris se disputent la victoire dans ce groupe de 20.
Bah, pour moi, ça peut tout à fait arriver que des coureurs considérés comme soit outsider, ou second couteau, ou comme tu l'as cité, des gars comme Higuita, par exemple, déjà il est tombé sur le Dauphiné, donc on ne sait pas s'il a bien récupéré. Et d'un autre côté, le leader Uran n'a pas forcément montré beaucoup de gages de sécurité. Donc ça peut permettre aux autres d'avoir plus de responsabilités dans l'équipe et de pas avoir à travailler pour le leader. Mais ouais, tout à fait. Après, ça dépendra aussi de qui va sortir dans les premiers kilomètres et si on les laissera partir ou non. Parce que ça peut, si on a une échappée pas trop costaud et qui arrive à être maîtrisé par le peloton, il peut y avoir une deuxième course dans les difficultés suivantes avec d'autres coureurs qui sortiront pour rejoindre la tête et éventuellement, pourquoi pas, essayer de se jouer la victoire. Mais ouais, ça dépendra de ça, ou si on a des costauds qui partent dès le départ, ça, c'est possible aussi.
Alors messieurs, je vais vous poser une question à tous les trois, vous allez me répondre par un mot. Pour cette étape, échappée, favori ou déception? Grégory, tu choisirais quoi de ces trois mots?
Moi, je dirais échappée.
Charles?
Ah ouais, je dirais quand même favori, parce que personne n'aura perdu de temps au final lors de la première étape.
Et Daniel?
Je dirais aussi que ça va être pour les favoris. Je pense que ça va contrôler l'échappée.
Et moi, je vais miser sur échapper également, avec peut-être les favoris qui bougent un peu trop tard et quelques coureurs, deux ou trois de l'échappée qui arrivent à garder une certaine avance. Attention, avec le départ de l'étape qui va être très rapide, il y a un sprint après 16 km. Des sprinteurs qui voudraient le maillot vert pourraient vouloir amener le peloton groupé jusque-là. Et s'ils y arrivent, alors il reste moins de 30 km avant le pied de la Colmian et on pourra avoir un départ d'étape ultra rapide, comme on le voit lors des étapes de montagne. Mais attention, le Tour de France ne fait que débuter et il est possible que plusieurs coureurs se disent « On n'est qu'à la deuxième étape, les gars sont frais, on va y aller tranquille. » On passe à Nice-Sisteron. Ça y est, on quitte Nice. Et c'est une étape, alors Thierry Gouvenou, dans le guide officiel du Tour de France, parle d'une étape a priori dédiée aux sprinteurs, mais c'est un trompe-l'œil. Charles, c'est une étape qui, quand on regarde sa première partie, les 120 premiers kilomètres, elle en compte 198, et a un dénivelé positif assez fou. En tout, elle fait 3100 mètres de dénivelé positif, alors c'est pas non plus exceptionnel. Certes, sur 237 km, le champion de France d'hier en faisait à peu près autant, sauf qu'il y a eu 4000 mètres de dénivelé la veille. On est au troisième jour de course, c'est là où ça commence peut-être à être dur. Est-ce que toi aussi, tu es d'accord pour dire que c'est une étape qui peut être difficile à prévoir et qu'on pourrait ne pas avoir tout le monde à l'arrivée?
Non, je pense pas. J'en profite pour dire que ce début de tour est génial. C'est vrai que les trois étapes, là, c'est assez top. Mais le dénivelé positif sur cette étape-là, il est surtout en première partie, si j'analyse bien le parcours. Et tu l'as dit, lorsque tu parlais de la première étape, Ben, les sprinteurs ont très très peu d'occasions. Donc la deuxième partie de course leur est quand même favorable. Et j'espère me tromper, mais je pense qu'ils vont essayer de verrouiller, de laisser une échappée à 3-4 minutes pour aller les cueillir ensuite. Dans les 100 derniers kilomètres. Enfin, c'est ce que je pense comme scénario.
Grégory, est-ce que ce n'est pas un genre d'étape? Alors, il faut savoir qu'il y a 7 km de plat au départ de l'étape et ensuite, ça, il y a une côte qui n'est pas répertoriée, mais ça monte pendant 3,5 km. Après, c'est l'arrière-pays niçois. Ça monte, ça descend. Est-ce que ce n'est pas une étape qui peut être très compliquée à gérer pour un peloton s'il y a pas mal de coureurs motivés pour prendre l'échappée?
Ça peut être compliqué en effet, en plus qui va vraiment s'allier derrière pour contrôler l'échappée? Est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup d'équipes qui seront prêtes à pouvoir jouer la gagne? Ça on verra bien, mais je pense qu'il va quand même falloir essayer de contrôler qui va sortir, mais il n'y aura pas beaucoup forcément de kilomètres pour le faire. Et il ne va pas falloir forcément non plus laisser partir un très gros groupe si on veut jouer la victoire au sprint. Mais quoi qu'il en soit, si l'échappée n'est pas trop importante et qu'il n'y a pas trop de monde dedans, comme l'a dit Charles tout à l'heure, je vois bien peloton essayer de contrôler et de disputer un sprint. Mais il faudra quand même faire attention au départ.
C'est la question que je voudrais poser à Daniel, mais également à vous, messieurs, en regardant la start list, même si toutes les équipes n'ont pas encore donné leur sélection, on a quand même la grande majorité. On parle de sprint, et c'est vrai qu'une étape comme ça, à moins que ça tombe un 14 juillet où les gars veulent faire échapper à tout prix, ça finit au sprint. Mais quelle équipe va rouler derrière les échappés?
Justement, ça.
Il n'y a pas trop de patrons, quoi.
C'est vrai que le début d'étape est super casse-pattes, tu as raison de souligner, mais tous les sprinteurs qui sont là, ce sont quand même des sprinteurs qui passent un peu les bosses, à part peut-être Greipel, de toute façon,
Oui.
Donc voilà, les autres sprinteurs,
Le Tosuda, Ewan, il va avoir ce genre d'étape, je pense.
Parce qu'il faut voir, par exemple, la Cofidis, si je prends la Cofidis, Viviani et Consoni, c'est son poisson pilote, donc, et Laporte, ils n'ont pas roulé. Mais je ne vois pas la Cofidis faire rouler Guillaume Martin ni Rezou Serrada.
Mais après, tu as des équipes comme NTT Pro Cycling qui n'a pas vraiment de leader pour le général. Là, tu as quand même deux belles cartes avec Gibbons et Nizzolo. L'Auto Soudal, ils n'ont pas non plus de leader. Il y a Caleb Ewan qui est là. Il passe bien les boss quand il veut. Donc, je pense qu'il y a quand même deux, trois équipes dans ce genre-là.
Il y a trois Coteaux. Donc, le début est très compliqué, mais les sprinteurs qui sont là, ils sont prêts pour ce genre d'étape. Et leurs équipes aussi, Et je pense que tout le peloton le sait, donc il n'y aura pas forcément de folie sur ce début d'étape. Il y aura déjà eu deux étapes un peu dures avant, je pense que là, ça va se calmer.
D'accord. Donc, pour vous, messieurs, c'est arrivé au sprint.
Ouais.
Alors, ben, on va passer à la quatrième étape. Et là, les sprinteurs qui se seront battus peut-être pour les premières et troisième étapes ne seront pas là pour le final, puisque c'est la première arrivée au sommet. Étape de moyenne montagne entre Sisteron et Orcières-Merlette. On est cette fois en présence d'une étape qui commence sur le plat. On a presque 60 bornes de plat, ponctuées par un sprint intermédiaire. D'ailleurs, je trouve les sprints intermédiaires cette année peut-être placés après moins de difficultés. Peut-être parce que justement, sinon, ils savent que Peter Sagan prend les échappées que ne peuvent pas prendre les autres sprinteurs. Et du coup, il y a no match. Et une étape qui va monter doucement en difficulté avant un final de 7 km à 6,7%. Bon, ça fait pas peur une montée comme ça, Daniel. Mais c'est la première arrivée au sommet. Même si les leaders arrivent à 20 ou 25 ensemble, il va y avoir un sprint pour la victoire d'étape et pour commencer à marquer les esprits.
Oui, c'est un peu comme sur le Giro où on commence souvent avec une première arrivée au sommet, qu'on appelle les montées plates en première semaine. Ça va arriver entre leaders, il y aura un gros train probablement des Jumbo, et puis bon, peut-être que Roglic pourra faire son fameux finish, ou bien à voir si d'autres peuvent aussi le faire, c'est avec des poids comme Dita ou Alaphilippe qui sont aussi capables de gagner ce genre d'étape.
Cette étape, Grégory, elle m'a fait penser, enfin cette arrivée en tout cas, m'a fait penser au col du Béal. Au col du Béal dans le Dauphiné Libéré 2014. C'était la deuxième étape et je pense que vous allez vous en souvenir. Il y a eu un train Sky avec une multitude d'attaques de Froome avec sa cadence de pédalage monstrueuse. Et il y avait seulement Alberto Contador qui avait réussi à le tenir. Les écarts n'étaient pas énormes parmi les premiers coureurs, mais il y avait eu une grosse impression. La question que je voulais te poser, c'est... un peu comme j'ai demandé à Daniel, c'est est-ce que tu penses que les leaders vont s'observer, on va avoir une montée au train et juste un sprint final, ou va y avoir vraiment quelqu'un qui va essayer de marquer son territoire?
Bah, peut-être, je dirais, limite un peu des deux. Je pense qu'une équipe, je dirais au hasard, Jumbo-Visma, va essayer de faire le train et pour empêcher les attaques des adversaires, pour mettre Roglic sur orbite, pour qu'ils puissent tenter de remporter l'étape et éventuellement de provoquer des cassures avec d'autres leaders qui ne seraient pas encore au top de leur forme.
Ça parle, comme l'a dit Grégory, Charles, sur le chat, de Roglic. Je lis même Julien qui dit « intouchable là-dessus, logiquement ». On parle de Pogacar, Carapaz également. C'est vrai que Roglic, par rapport à ce qu'il a montré sur le Dauphiné, on pense à lui, mais c'était peut-être des ascensions plus dures.
Ouais, Carapaz, moi je n'y crois pas du tout. J'ai vu passer son nom 2-3 fois, mais il ne faut pas oublier que Carapaz, son rôle exclusif lors du Tour de France, ce sera être présent pour Egan Bernal. Donc il n'aura pas l'opportunité, comme il l'avait fait sur le Giro l'an dernier, d'aller attaquer un peu en loose day et d'aller gratter des étapes, comme il l'a encore fait en Pologne là, ce mois-ci. Donc je ne crois pas du tout à Carapaz. Chez Ineos, on ne rigole pas trop avec les rôles de chacun, donc il sera bien gentiment devant Bernal, je pense. Mais oui, pour répondre à ta question, ce sera pour Roglic, il est en forme. Je pense qu'on aura une étape type Dauphiné, ce qu'on a vu malheureusement, est-ce qu'a fait rager pas mal de suiveurs, dont moi.
Dauphiné.
Ouais, non, je pense pas, parce que je suis pas sûr qu'on se livre trop, mais je vois bien un gros train de Jumbo-Visma, une attaque de Roglic à 500 mètres de l'arrivée. Mais ce qui est intéressant pour moi, je pense, sur ce genre d'étape, c'est d'avoir un œil sur la caméra qui sera derrière le peloton. Parce qu'on sera en début de Tour de France, vous l'avez dit, et si jamais un leader est en méforme, même si la pente est pas très forte, on a vite fait de perdre 30 secondes et une minute, et c'est là où j'aurai l'œil le plus attentif, je pense.
Moi, alors... J'ai dit Pinot parce que je pense que c'est un des favoris qui a le plus de punch sur un final comme ça. Et un autre coureur que je vais citer, alors je ne sais pas s'il veut jouer le général ou pas, sur le Dauphiné malheureusement il est tombé, mais c'est Sergio Higuita. C'est ses favoris qui ont une vraie pointe de vitesse. À voir. Surtout que le lendemain, entre Gap et Privas, on a une étape de plat, Grégory. Mais encore une fois, ben, pour les sprinteurs, j'ai envie de presque dire patatras. Parce que si l'étape est en dénivelé négatif, la quasi-totalité ben, de l'étape, tout simplement. Dans le final, à moins de 20 km de l'arrivée, bon, il y a la côte de Saint-Vincent de Barrès, 2,7 km à 4,2%, je pense qu'à peu près n'importe qui, sauf les blessés, les fatigués, la passeront. Mais le final, c'est 6 km qui pourraient être plus qu'un faux plat. C'est vraiment pas facile. Et il y aura tout ce qu'on vient de dire depuis le départ, depuis du tour, dans les jambes.
Ouais, 6 km en faux plat dans le final qui sont plus que du faux plat, et puis l'arrivée n'est pas non plus sur le plat, donc pour pouvoir arriver au sprint, ça va être assez compliqué. Enfin, ça va vraiment se jouer avec des sprinteurs qui passeraient vraiment le relief, quoi. Ça va pas être on en rigolait un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas du tout une étape pour André Greipel, par exemple. Donc ce sera plutôt plutôt pour du Peter Sagan d'il y a quelques années, on va dire.
Arnaud Démare de cette année ?
Bah, Arnaud Démare de cette année, mais... oui, je pense qu'il gagne. Il pourrait presque faire un écart sur le 3-4e, quoi. Mais ouais, c'est pour ce type de coureur, en tout cas, pour des sprinters punchers, quoi, pas pour des sprinters uniquement. Et du coup, pour contrôler l'étape, ça va pas forcément être évident. Enfin, il va falloir qu'une équipe qui ait vraiment très confiance en son sprinter du jour, quoi.
Surtout Daniel, qu'encore une fois, l'étape démarre avec une petite côte, hein. De toute façon, quand on démarre de Gap, généralement, il faut monter. Est-ce que tu penses à ce que des punchers pourraient faire à la nique au peloton, ou non, ça va être pour les sprinteurs, ils ont déjà peu d'occasions, alors ceux qui arrivent à, je vais pas dire de grimper, mais qui arrivent à être forts quand ça monte un peu, ils vont pas laisser passer le
match. Je suis pas persuadé que ça monte quand même assez pour faire vraiment des différences. Surtout, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais les sprinteurs qui sont présents sur ce tour, ce sont quand même plutôt des sprinteurs qui passent assez bien les bosses. Alors oui, on verra peut-être du Viviani, peut-être du Sam Bennett, peut-être du Zolo, mais bon, il y a ça du Trentin, du Sagan, du Wout van Aert qui fait le sprint. Cocard, il a l'air de bien passer les bosses aussi cette année. Il y a Colbrelli. Du côté de Trek, qui sont pas mal aussi, qui peuvent passer les bosses et faire des bons sprints. Donc, moi, il n'y a pas vraiment de débat sur ce final. Je pense que c'est pas si difficile.
Charles, bon, je pense qu'on est plus ou moins tous d'accord avec ce que vient de dire Daniel. La question que je voudrais te poser à toi, si on va considérer ceci comme une journée de transition pour les favoris, à moins qu'il y en ait un qui ait le malheur de crever dans les 10 derniers kilomètres et qui va devoir chasser comme le malchanceux Richie Porte, par exemple, qui peut malheureusement être un peu coutumier du fait. La question que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'on peut s'imaginer à la Flamme Rouge des Van Avermaet, des Gilbert tenter d'accélérer ou même de se mêler au sprint? Parce qu'encore une fois, sans parler de cette étape, il y a eu tout ce qu'il y a eu avant. On ne va pas avoir des sprinteurs comme dans les deux ou trois premières étapes d'un Tour de France où il n'y a eu que du plat.
Ouais, mais je vois quand même, moi, comme les gars des sprinteurs. Enfin, le coup du kilomètre, on le fait de moins en moins, quand même, j'ai l'impression, depuis ces dernières années. Moi, ça me fait penser à des arrivées, pour ceux qui suivent un peu l'UAE Tour, au barrage d'Atadam. C'est des courses ou des étapes où on pense qu'on va voir les punchers, et au final, on s'aperçoit que les Wan, les Nizzolo, les Bennett, etc., arrivent très bien à passer. On le voit aussi à Burgos, hein, sur des étapes qu'on croit compliquées. Donc, ouais, comme les gars, je pense que ça va jouer entre sprinteurs.
Beaucoup citent Coca, alors on nous demande d'afficher les profils en même temps. Là, on ne peut pas, hein, on est d'accord.
Non, on peut pas, on les a, ils sont tous en page d'accueil du site veloclub.net, donc ils sont tous sur la même page, dans le papier parcours, profil et étapes du Tour de France 2020. Donc n'hésitez pas, en même temps que vous suivez le chat, à ouvrir cette page-là. Nous, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on l'a tous sous les yeux.
Alors Charles, je reste avec toi pour parler de la sixième étape, le Tail, le Mont égal, encore une fois, ben, c'est plus que vallonné. On peut appeler ça de la moyenne montagne, mais avec un final de costaud. Le Mont Aigoual, certes, c'est pas dur, hein. C'est du 5%, 2-3%. Sauf qu'avant le Mont Aigoual, il y a le col de la Luzette, 1,7 km à 7,3%, dont 2 km à plus de 10%. Encore une fois, on accumule de la fatigue, on accumule du dénivelé positif, une étape toute plate. Alors ça, c'est de plus en plus rare d'ailleurs sur le Tour de France, tu vas me dire ce que t'en bats. Des étapes où c'est tout plat quasiment. Et ensuite, bam, un mur pour les coureurs. Ça fait penser aux anciennes étapes, par exemple en 1994 ou 1996, arrivé à Otakam alors qu'il n'y avait rien avant. Ça peut changer les habitudes pour la victoire d'étape avec une bonification en haut de ce dur col. Course par l'arrière ou course par l'avant ?
Course par l'arrière, je pense, parce que y a un replat, CPT Matros le dit, effectivement, il a raison sur le chat, il y a un replat à un moment, donc je pense que ça va stopper les velléités des favoris, et je vois bien un scénario type Orsière Merlette, tu vois, genre un gros train et des attaques tranquillement à 500 mètres ou à 1 km de l'arrivée.
D'accord. On reste dans la première partie du tour, Grégory, est-ce que tu penses qu'on va avoir... un étalonnage des forces comme on l'a vu au Dauphiné, où d'ores et déjà on aura des courbes qui pourraient se croiser.
Je pense qu'on va rester encore, sur un type début de tour avec la hiérarchie du début de tour qui va plus ou moins se respecter. Je pencherai plutôt pour une course d'usure sur cette étape avec encore un train dans le col de la Luzette qui va bien fatiguer tout le monde, et enfin malheur à ceux qui se feraient lâcher, parce que lâcher avant le sommet de la Luzette et pas pouvoir rentrer derrière, ça pourrait faire mal à l'arrivée. Mais autrement, je vois pas forcément de grandes bagarres entre les favoris sur l'arrivée.
On aura, Daniel, alors qu'on parle de train, je pense que tout le monde a en tête Jumbo-Visma. Surtout, hein, puisqu'Ineos semble, vu la composition d'équipe, changer un peu son fusil d'épaule, tout ça. Est-ce que tu penses qu'une équipe, donc on est au sixième jour de course, va continuer à faire un train comme ça, ou on pourra avoir des opportunités pour les attaquants? Alors, je vois Stradri qui parle de Landa, par exemple, qui pourrait attaquer sur la petite route du col de la Luzette pour aller chercher une victoire d'étape, peut-être avec des équipiers placés à l'avant.
Oh, moi, je pense que quand tu arrives au pied avec 5 ou 6 équipiers grimpeurs et que tu as l'habitude de faire un train pour une heure, tu ne vas pas te priver, tu vois, il n'y a pas de raison. Donc, est-ce que ça ouvre vraiment des opportunités pour des attaques d'autres favoris ou quelqu'un qui voulait sortir dans le tunnel? C'est pas évident. Bon, peut-être qu'ils n'iront pas à fond parce que c'est un peu un replat dans le tunnel, mais bon, à voir. Par contre, je poserais bien une autre question, puisque toi, tu connais bien la géographie de la France. Cette étape qui est quand même plate pendant 150 km, ça se déroule dans une vallée principalement. Si je ne m'abuse, c'est la vallée de l'Ardèche. Est-ce que ce n'est pas des régions où il y a souvent du vent qui serait propice aux bordures?
Alors là, je t'avoue que je ne sais pas trop. C'est des routes qui peuvent être utilisées par... Parler des étapes, n'importe quoi, des courses comme l'étoile de Bessèges. Donc, en effet, il peut y avoir du vent. Alors, à cette période de l'année, je ne sais absolument pas. Je miserai plus, encore une fois, sur la différence entre... Tu vois, c'est vraiment tout plat, ça peut rouler gros plateau. Enfin, non, c'est pas ça, ça va rouler gros plateau. Et quand on va arriver dans le col de la Luzette, le passage au petit plateau qui peut casser des jambes. Mais pour le vent, sur cette étape, je saurais te dire. J'ai pas assez analysé sur ce point. Autant l'étape précédente, par exemple, on n'en a pas trop parlé. Il peut y avoir des bordures. Autant sur celle-là, je sais pas. S'il y en a dans le chat qui habitent dans la région, s'ils peuvent me dire. Mais sinon, pour ma part, je vais être à l'encontre de vous, c'est-à-dire que je pense qu'une attaque dans, la Luzette peut avoir des chances d'aller jusqu'au bout. On va passer à l'étape 7, Millau-Lavaur. Alors, c'est une étape dont je peux vous parler puisque j'ai reconnu l'intégralité du parcours sur le vélo. Donc c'est une étape qui, dont le départ est exactement le même que l'étape de 2018 qui finissait à Carcassonne. Vous vous en souvenez peut-être de ce début d'étape où ça avait attaqué de partout, où Arnaud Démare avait été distancé et où Moscone avait frappé Élie Gébert, ce qui avait provoqué son exclusion de la course derrière. Le début d'étape est très très difficile, hein. Mais ensuite on a au bout de 30 bornes, on a une vallée. Et le col qui est à milieu d'étape pour des pros n'est pas si dur. On a une traversée de la montagne noire ensuite en descente sur des très petites routes. Mais alors je vais dire, avant de vous interroger, je vais parler moi-même. Je pense que s'il y a le vent de face, pas de vent, ça sera pour le peloton. Si vent de dos, alors possibilité pour les échapper. Et je dirais même, le vent de dos pourrait provoquer quelques bordures dans le final. Charles, étape piège ou étape sprinter ou peut-être même une échappée.
Moi, je vais te faire confiance, parce que c'est ta région, donc tu connais forcément mieux les pièges que moi. À première vue, j'aurais dit sprint, mais c'est vrai que je ne connais pas trop les données par rapport au vent et tout, donc je vais vraiment te faire confiance sur le scénario, je crois.
Grégory ?
Je suis d'accord. Je pense que tu as résumé l'essentiel de l'étape. Il y a de grandes chances que ça arrive au sprint, sauf si vent favorable ou trois quarts d'eau, enfin vent qui avantagerait des échappées, voire des bordures.
Et toi, Daniel ?
Ouais, sur le papier, ça ressemble plus au sprint. Effectivement, on peut aussi imaginer de la bagarre, le début avec casse-pattes et tu parles du vent. Maintenant, on est à l'étape 7 et je crois que sur toutes les étapes, on a dit qu'il, jusqu'à maintenant, on a l'impression qu'il va y avoir une bagarre incroyable. Donc, je pense qu'il n'y a pas non plus des fortes probabilités pour que ça arrive tous les jours en mode bagarre incroyable avec un peloton éclaté. Donc, on va voir quel jour ils vont s'exciter, quel jour vont être plus tranquilles. C'est peut-être un peu difficile à prédire finalement.
Non, après, je parle possibilité pour échapper parce qu'en effet, quand on arrive, si on est vent de dos, on l'a quasiment toute l'étape. Moi, je l'ai fait vent de face, bon, pas de chance. Mais surtout, si on arrive à Castres avec le vent de dos, enfin, on est propulsé jusqu'à l'avoir. C'est très compliqué pour le peloton de revenir et tu peux pas reprendre du temps du haut du col du Péroninque à Castres. Soit c'est des routes à la conne là, qui montent toutes petites, qui redescendent. Bon, bref. Vous l'avez vu sur le Tour du Limousin, il y avait des passages où le peloton ne pouvait pas reprendre parce que ça tournicote, etc. Bon, ben voilà, on est typiquement là-dedans, mais bon, si c'est vent de face, je ne vois pas comment une échappée peut résister, moins que le peloton fasse rideau. On passe à une étape beaucoup plus intéressante, ça me fait mal de le dire en tant que Vauréen, mais on est à l'étape 8, on est au deuxième week-end de course et on rentre dans le premier grand massif donc c'est les Pyrénées. Cazères-sur-Garonne, Loudainville, Grégory, l'école. Alors cette année, le Tour de France n'a pas vraiment de col mythique au programme, mais les trois cols qui vont avoir lieu sur cette étape sont connus de tous, le col de Manté, le port de Balès et le col de Peyresourde, les trois par leur côté le plus difficile. Arrivé en descente, contrairement aux étapes du Massif Central, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une étape comme ça, qui est assez tôt dans le tour finalement, au vu de la topographie du Tour de France?
Ouais, assez tôt dans le tour, 8e étape, mais pourtant, je pense qu'il va falloir se battre entre les favoris cette fois-ci. Parce qu'on a trois gros cols, pas forcément hyper longs, mais pentus. On a du 8%, de moyenne, 7,5, 7,7, donc c'est quand même pas mal. Et puis il y a quelques kilomètres avant d'aller chercher le premier col, mais on est quand même sur un format court, 139 kilomètres l'étape, donc ça devrait bagarrer assez rapidement le pied de Manté avant les 50 km. Enfin, ça commence déjà à monter avant d'ailleurs, mais normalement ça devrait partir en costaud et les favoris devraient pouvoir se jouer à défaut de la victoire d'étape selon qui est échappé devant, il devrait quand même pouvoir se faire la bagarre et essayer de se distancer ou au moins d'en distancer certains.
Alors, j'ai pas regardé l'historique des étapes passées par le port de Balès, mais là, de souvenir, j'ai l'impression que lorsque ce col est franchi, c'est tout le temps la victoire d'une échappée. 2014 échappée, 2010 échappée, 2012 échappée. Daniel, une configuration comme ça, notamment avec l'arrivée en descente. Est-ce qu'on peut voir, tu penses, sachant que le lendemain, il y a une autre étape de montagne, les échappées attaquer, je parle même dans le port de Balès ou dans le col de Peyrosso?
Ouais, clairement, cette étape, c'est un peu un modèle qui revient tous les ans dans les Pyrénées, avec deux, trois cols qui s'enchaînent, parfois un replat entre les cols. J'ai l'impression que ces dernières années, il ne se passe jamais grand-chose. Je me trompe un peu, mais bon, en tout cas, entre les leaders du général, souvent, ça se neutralise pas mal, surtout dans le premier massif, dans les Pyrénées. Je ne crois pas à une grosse bagarre entre les favoris, même si le terrain serait adapté. Donc oui, je vois bien une échappée assez importante y aller, c'est-à-dire qu'il y a des bonnes chances de victoire. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les gros points pour le maillot grimpeur qui sont sur le parcours. Ça va être une étape importante pour ceux qui jouent ces classements.
Charles, c'est la deuxième étape de montagne de ce Tour de France, après la deuxième, puisque les étapes du Massif Central sont typées courses de côte. Au final, on a le premier enchaînement de cols, trois cols de première catégorie, un de hors catégorie. Port de Balès, Peyrosourde, ça s'enchaîne quand même assez bien. Des cols pas faciles qui pourraient amener la perte de certains favoris.
Ouais, moi j'ai envie de dire, attendez-vous à être déçus si vous en attendez trop. Enfin, autant j'adore le début de Tour de France, on l'a dit, c'est vraiment captivant parce qu'il n'y a pas une seule purge, contrairement à d'habitude, et il peut se passer quelque chose sur toutes les étapes. Mais là, je déteste cette traversée des Pyrénées, je trouve que c'est complètement escamoté. Je suis quasiment sûr qu'il ne se passera absolument rien, ni dans Balès, ni dans Peyrosourde, par peut-être une ou deux micro-attaques, et le lendemain, c'est pareil, le Marie-Blanc est un col super intéressant, mais vu son positionnement et la configuration de l'étape, je ne vois pas comment il peut se passer quelque chose. On est à la 8e et la 9e étape. J'espère me tromper, hein, parce que j'adore le spectacle, comme vous tous, mais je m'attends à beaucoup de déceptions et surtout beaucoup de frustrations lorsqu'il viendra le moment de débriefer ces deux étapes pyrénéennes.
Alors, vu que tu parles de la 9e, on va passer à la 9e, puisqu'elle a un profil un peu proche de celle qu'on vient d'analyser, c'est-à-dire arriver en descente après un col dans le final. Daniel, cependant, il y a de grandes différences avec l'étape 8, donc la 9e, c'est Pau-la-Reims, et là, on va chercher le pourcentage, avec le col de la Ourcère, qui a plusieurs kilomètres au-dessus de 10%. C'est un col qui est proche du... Enfin, on va chercher le col du Soudain ensuite, on doit avoir 5-6 km à plus de 10%. Il y a une transition. Bon, il y a un petit col qui s'appelle le col de la Lichère à 4,2 km à 7%. Et le col de Marie-Blanc, dont parlait Charles, 7,7 km à 8,6%. Mais quand on regarde le profil, les 4 derniers kilomètres sont à plus de 10%, voire de plus de 12%. Est-ce que tu penses, comme Charles, qu'on va être déçu? Ou les pourcentages, même si le col se trouve à 18 km de l'arrivée, vont faire que ça va exploser et qu'on va avoir une course de mouvement?
Ah, déjà, Ourcère qui est bien difficile, comme tu l'as souligné, là, c'est carrément avant le milieu de l'étape. Bon, je ne sais pas si ça va même peser dans les jambes, je ne suis pas sûr, comme maintenant, on passe tout à la moulinette, j'ai l'impression que ça fait moins mal physiquement que peut-être dans le temps. Donc, après, il y a des replats entre les cols. Il y a 7-8 km de plat après la descente finale pour rallier l'arrivée. Non, là, franchement, à part une échappée, je vois pas trop ce qui pourrait se passer.
Même pessimisme, Grégory?
Bah, cette étape, j'y crois. Non, j'y crois pas trop, mais. Enfin après, vu que pas mal de coureurs ont déjà perdu du temps, il devrait pouvoir y avoir une belle échappée pour se jouer la gagne, mais entre les favoris, j'y crois pas spécialement.
Eh bien, encore une fois, je vais à l'encontre de vous tous. Je pense qu'avec le début du tour qu'il y aura eu, encore une fois, on n'est pas sur la deuxième étape où il y a du dénivelé, là. Il y a du dénivelé dans les jambes depuis le début. Alors, certes, il y a la moulinette, mais faut pas déconner. Ça fait vraiment mal. Je pense que Marie-Blanc, par le profil que c'est, ça va exploser de partout. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait 3-4 coureurs qui s'échappent et qui finissent devant. Et alors, on le sait, quand des coureurs s'échappent après un col et qu'il y a un peu de vallée derrière, ça peut faire des écarts à plus d'une minute. J'annonce la première grosse bagarre entre favoris. Oui, Urser, va pas y avoir d'attaque dedans, ou alors ce serait la grosse surprise. Mais ça va faire mal. On peut imaginer une équipe qui roule dedans pour épuiser les gars comme la Movistar. Et malheureusement, ça leur avait pété entre les jambes l'an dernier sur le Soulor. Non, je pense vraiment que ça va exploser, d'autant que le lendemain, c'est la journée de repos.
C'est peut-être le seul espoir, au final, ouais, t'as raison.
Ouais, puis là où je peux te rejoindre, c'est vrai que sur Auxerre, tu peux aussi perdre, bon, par exemple, si c'est la Jumbo qui est aux commandes du peloton au hasard. Tu peux aussi perdre tous tes équipiers, on va dire, rouleurs, et devoir te taper la vallée ensuite avec une partie de tes grimpeurs. S'il y avait, par exemple, des gens dangereux dans l'échappée, quelque chose comme ça. Donc oui, tu as raison, le final peut éventuellement donner lieu à un feu d'artifice. C'est quand même intéressant ce que tu dis.
Louis qui dit que si tu t'intrudes dans Marie-Blanc, il y aura 5 Jumbo pour les derrière. Je ne peux pas croire qu'il y ait 5 Jumbo après un col comme Marie-Blanc, après tout le Tour de France, l'étape, tout ça. Et d'autant que ce sera peut-être un Jumbo comme Roglic qui attaquera dans Marie-Blanc. Donc la journée de repos, on passe à un tout autre profil. Grégory, première étape totalement plate de ce Tour de France, Île d'Oléron, Île de Ré. Une étape que les sprinteurs, les gros culs comme on les appelle, vont être heureux de retrouver, surtout ceux qui ne sont pas très forts quand la route s'élève. Et par contre, ça va serrer des fesses pour les favoris parce qu'on est en bord de mer.
Ouais, là, ça va être neutralisé pour les sprinteurs. Là, c'est clair et net. Ils vont pas laisser passer une telle occasion. Mais effectivement, bord de mer, qui dit bord de mer dit éventuellement vent, éventuellement bordure. Donc, faudra voir. Et en plus, lendemain de journée de repos, ça peut aussi faire mal pour ceux qui ont du mal à remettre en route. Donc, ouais, ce sera. À la fois excitant pour certains et pour d'autres, ça va faire peur. Mais ça va être du sprint. Bon, y aura certainement une échappée qui va partir. Je me demande juste personnellement si le peloton voudra revenir avant le sprint intermédiaire pour ceux qui jouent le maillot vert ou pas.
Charles, une étape où on pense notamment aux fans d'un certain coureur français. Ça va être une étape très dure à vivre psychologiquement.
Ouais. Après, je pense pas, parce que je connais pas le parcours par cœur, mais je sais pas si on va toujours aller dans la même direction au final.
Non, justement, ça tourne beaucoup. On fait ouais, quasiment toutes les directions.
Donc, c'est pas sûr que les bordures soient assez longues pour.
Les bordures, quand même, le final de l'étape, si le vent vient de l'est, on a bordure à partir de Rochefort. C'est-à-dire les 60 derniers kilomètres, les 65. Maintenant, Daniel, c'est une étape, contrairement à Albi l'an dernier, où tout le monde est prévenu.
Ouais, mais bon, ça, être prévenu, ça ne suffit pas. Je crois que l'année dernière, qui en avait fait les frais ? Je crois que c'était les Groupama, comme souvent. Oui. Mais, en tout cas, non, là, on peut être plus proche de la mer. Le but recherché, c'est clairement les bordures. Bon, il faudrait vraiment qu'il n'y ait pas de bol et du vent inférieur à 10 km/h pour que rien ne se passe. Après, c'est pas parce qu'il y a des bordures en milieu d'étape qu'à l'arrivée, il y a forcément des dégâts. Ça peut aussi s'allumer un peu plus moins. En tout cas, pour une étape plate, ça devrait être pas trop désagréable à suivre.
D'accord. Donc, on est à peu près d'accord quand même, ce sera une étape pour les sprinteurs. Il n'y a rien à dire dessus. Et je pense on ne va pas trop s'attarder sur l'étape derrière, qui arrive à Poitiers, où les organisateurs ont voulu vraiment faire une journée pour les sprinteurs. On les comprend. Hein. Généralement, on râle, mais bon, là, les pauvres sprinteurs, ils n'ont rien à se mettre sur les dents. Une étape sans véritable dénivelé. Une étape, même à l'abri du vent. Sprint, on est d'accord. Messieurs, les équipes de sprinteurs ne vont pas laisser passer pareille occasion.
Ouais, sprint, de toute façon, il n'y a pas trop d'autres opportunités, tu l'as dit, donc arrivée massive.
Allez, on repasse à l'étape de Saran. Alors là, on reprend petit à petit les difficultés avec une étape. Bon, il y a pas mal de dénivelé, mais ce n'est pas pour les favoris. Enfin, j'ai vraiment du mal à y croire. Il y a des gros pourcentages sur les deux cols, enfin, côte et col, qui se retrouvent dans le final d'étape, la côte de la Croix-du-Pé et Sucomari. Daniel, c'est une étape de transition pour Baroudeur, avec peut-être une échappée qui prend 15 minutes d'avance.
Ouais, c'est ça. Il y aura déjà beaucoup de gens complètement largués au général, donc il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on n'est pas, est-ce qu'éventuellement peut-être des sprinteurs, punchers peuvent pas viser cette étape? Je pense encore une fois à des gars comme Trentin ou Romain Avermaet. Bon, après, ils sont aussi susceptibles d'aller dans l'échappée pour que ce soit plus simple. Oui, étape assez calme pour le peloton.
Grégory, c'est vrai qu'on se souvient de Van Avermaet qui avait ébloui de sa classe le Massif Central, c'était en 2000. J'ai un trou. 2016, je crois. Oui, il vaut mieux qu'il aille dans l'échappée.
Bah, je pense que les coureurs de son profil, ou même ceux qui sont encore un peu plus sprinteurs que lui, mais qui passent bien les bosses. Bah, serait peut-être plus inspiré, je dirais, d'aller directement dans l'échappée pour essayer de jouer la gagne. Tout miser sur un retour du peloton, ça me paraît un peu limite, quoi, on va dire. Et ouais, vaut mieux peut-être aller dans l'échappée. Bon, autrement, j'aurais dit genre d'étape à défaut de sprinter ou de mec qui passe hyper bien les bosses, j'aurais dit étape pour un Thomas de Gent avec 217 bornes et puis des montées, descentes à n'en pas finir, quoi.
Un peu comme c'est vrai, ça ressemble un peu à Saint-Étienne de l'an dernier. Julien qui dit sur le chat un Galopin en forme, ben non, puisque Galopin ne sera pas sur, lui dit Galopin pas sur le tour, voilà, tout simplement. Tony Galopin ne fait pas partie de la sélection AG2R. Une autre chose qui peut faire en sorte qu'il ne faut pas miser sur un retour du peloton, Grégory, c'est que le lendemain, on a affaire à une étape terrible pour les coureurs qui ne grimpent pas bien. Je m'explique. C'est l'étape qui arrive au Puy-Marie dans le Cantal. Étape de moyenne montagne avec une arrivée dans un mur. Puisque le Puy-Marie, les derniers kilomètres sont à 12%. Avant ça, il y a le col de Néron, avec des pourcentages aux alentours de 10%. Mais une étape où, quasiment dès le départ, ça va monter et descendre. C'est terrible, ça va péter de partout jusqu'à ce que l'échappée parte. Grégory?
Oui, excusez-moi, encore un problème de son. Oui, ça peut peut-être partout. Il n'y a quasiment pas un mètre de plat sur cette étape. Et normalement, il devrait y avoir une grosse bagarre pour prendre l'échappée. Il y a pas mal de grands prix de la montagne. Donc, ceux qui sont intéressés par ce classement devront se mettre en évidence. Et c'est, encore une fois, ça va aussi être une étape qui sera compliquée à maîtriser derrière, donc il faudra quand même voir qui ira dans l'échappée. Enfin, faudra pas trop laisser sortir n'importe qui, que des mecs pas dangereux qui pourront éventuellement se jouer la victoire d'étape entre eux. Je pense pas que les favoris voudront rattraper ces coureurs là pour se jouer la victoire d'étape, même si ça peut être une belle victoire de s'imposer au sommet de Puy-Marie du Pas-de-Pérol.
Charles, une étape comme ça, alors certes, de toute façon, les favoris, même s'ils sont derrière l'échappée, ils vont se battre sur 10%, c'est pas possible autrement. Mais tu vois une étape comment bagarre pour l'échappée, ensuite rideau ou pas?
Bah, je vois bien un truc comme ça, ouais, parce que là, finalement, au bout de 15 jours quasiment, enfin 13 étapes plutôt, je pense que beaucoup de personnes auront perdu du temps, donc il sera peut-être plus facile de s'extirper et de prendre le large. Donc je vois bien une grosse, grosse bataille. Tu sais, comme on voit des fois où vraiment pendant 50 bornes, ça débranche pas. Et une fois que c'est parti, et on aura une course à deux échelons entre guillemets, puis une belle bataille dans le Paderborn entre les favoris, où là il y a de la pente et il y a moyen quand même de faire quelques écarts, hein, pas de prendre plusieurs minutes, mais de voir peut-être les premiers écarts au final de ce Tour de France 2020.
Daniel, étape victoire de l'échappée obligatoire pour toi aussi?
Je sais pas, parce que c'est le genre d'étape, c'est vrai que le début d'étape, tu peux être sûr que ça va rouler fort, fort, fort. Il y a quand même pas mal de montées et les enchaînements de montées comme ça, il y a toujours un ou deux favoris qui n'aiment pas. Bon, peut-être pas ceux qui sont dans le top 5, mais en tout cas des mecs qui sont dans le top 15 qui n'aiment pas et qui sont en difficulté. Je sais pas, ça peut rouler fort toute la journée aussi et ne jamais débrancher et faire quand même des dégâts par l'arrière chez les favoris. C'est le genre d'étape qui est un peu propice à ça, je trouve. Donc, en tout cas, j'ai hâte de la voir.
Ouais, moi j'ai vraiment du mal à lire cette étape. Moi je vois une échappée de costaud et une grosse bagarre des favoris derrière, avec victoire d'une échappée, mais c'est une étape que les favoris ne peuvent pas manquer. C'est la deuxième arrivée peut-être la plus dure du Tour de France sur ce Tour de France.
Ah, voilà. Non mais surtout là, si tu as des mauvaises jambes, tu peux lâcher n'importe où dans l'étape. Ah,
tu peux prendre 15 minutes dans la tête. Ouais. D'ailleurs, imaginons un favori qui digère mal le début de l'étape et. Et là, on est parti pour une étape folle pour l'éliminer, pour éviter. Ça peut être terrible. Et alors, le lendemain, Clermont-Ferrand-Lyon, encore une fois, les sprinters, une petite claque dans la tête parce qu'il y a du dénivelé, Charles. Ouais. C'est une étape difficile à lire. Je pense pas qu'il y aura une attaque dans les favoris, même si tu peux toujours avoir un puncher qui tente, on ne sait jamais dans le final. Mais. Encore une fois, peut-être pour l'échapper. Les sprinters peuvent pas faire rouler sur une étape comme ça. Des cols en début d'étape et des côtes en fin d'étape.
Ouais, non, c'est pas possible. Pour moi, c'est l'étape parfaite de transition. Les favoris vont rester bien au chaud tranquillement. On va avoir une échappée genre qui prend 10-15 minutes tranquillou et qui joue la gagne dans les deux ou trois dernières bosses avant Lyon. D'autant plus que, enfin, on aura eu le Paderborn la veille qui aura été, vous l'avez dit, très très compliqué. Et le lendemain, c'est finalement la première vraie grosse ascension de ce Tour de France. Enfin, ascension finale en tout cas avec le Grand Colombier. Donc, je vois mal des favoris cramer des cartouches à la veille d'un rendez-vous si important.
Est-ce que ça ressemble un peu, Grégory, à la Vuelta, ce Tour de France, avec beaucoup de victoires d'échappées?
Ça peut y ressembler, oui, effectivement. Il y a, sur cette étape, ouais, il y a une grande chance que ce soit l'échappée qui aille au bout. Ouais. Après le début d'étape, faudra voir qui ira dans l'échappée, vu qu'on a quand même le Grand Prix de la Montagne, c'est pas forcément grand chose, le premier Grand Prix de la Montagne de l'étape, mais il y a un sprint intermédiaire au kilomètre 38, donc faudra voir, peut-être que certains voudront contrôler la course jusque là, mais du coup si jamais ça contrôle, on pourrait avoir une échappée de coureurs costauds qui s'extirperait dans le col du Béal. On fera voir. Mais oui, pour le classement général, non, j'y crois pas du tout sur cette étape-là. Après, je sais pas ce que. Le final de l'étape, je connais pas du tout, mais il y a deux, trois petites côtes dans le final et ça fait un peu toboggan. Donc, je sais pas comment sont les routes, s'il y a des risques de chute ou des choses comme ça derrière, mais il faudra voir.
On se rappelle d'arriver à Lyon, Daniel, avec des. Bah, c'est les baroudeurs punchers finalement qui attaquent. C'est compliqué encore une fois pour des sprinters. Ah,
ouais, en tout cas, ils ne peuvent pas forcément miser sur un contrôle du peloton, mais avec le sprint intermédiaire et l'arrivée, les sprinters punchers, encore une fois, je sais que je vais citer Trentin, ils vont tenter de se glisser dans l'échappée, même Sagan, pour prendre les points peut-être au sprint intermédiaire et peut-être jouer aussi une place à l'arrivée. À voir aussi effectivement ce que feront les pure sprinters comme Bennett et Viviani, mais à mon avis ils n'ont pas forcément leur chance au maillot vert, donc à partir de là, est-ce qu'ils vont contrôler pour le sprint intermédiaire? Je pense pas, donc à partir de là je pense que l'échappée avec les gars placés au maillot vert peut partir assez vite finalement.
Étape indécise, bon, alors il y en a qui râlent parce que l'étape est placée un samedi. L'étape de dimanche, par contre, il n'y a rien à dire. Lyon-Grand Colombier, Daniel, arrivé au sommet, des pourcentages terribles. On l'a vu sur le Tour de l'Ain. Tout simplement, c'est une étape où tu ne peux pas te cacher. C'est, 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 ça va s'attaquer dans les favoris. Ça va arriver un par un.
Oui, ça ressemble à l'étape qu'on a vue il y a 2-3 ans, je crois, aussi avec le Grand Colombier et le col de la Biche, avec les pourcentages infernaux qui s'enchaînent.
Bon, on a vu une étape en 2017, mais ils étaient en milieu d'étape et on avait ensuite le Mont du Chat dans le final. Là où Richie Porte et je ne sais plus qui tombe et se blesse.
Bon, on avait été un peu déçu parce qu'il n'y avait pas eu trop de bagarres, si ma mémoire ne me fait pas défaut, mais les pourcentages sont tels que de toute façon, les dégâts, il y en a, même si c'est pas en arrière.
Est-ce que c'est là, Charles, que le tour des favoris, et pourtant, Dieu sait qu'il y en a des étapes avant, commence vraiment pour la victoire finale?
Ah oui, je pense, d'autant plus que là, on arrive vraiment dans l'enchaînement final. Bon, certes, il y aura la journée de repos, mais vu le programme à suivre, je pense que tu as raison et que c'est là que le Tour de France des favoris va commencer, entre guillemets. Alors, bien sûr, il y en aura qui l'auront perdu depuis belle lurette, mais pour ceux qui sont encore dans le jeu, en tout cas, je pense que oui, effectivement, c'est là qu'on va commencer à avoir des écarts et à pouvoir savoir qui est en mesure de remporter le Tour de France.
Grégory, une étape comme ça, il reste une semaine de course. C'est comment que tu le vois? En fait, moi, j'ai vraiment du mal à voir comment ça peut se passer sur ce Tour de France. Avec tout ce qu'on a dit déjà, avec ce qui reste, on ne peut pas escamoter une étape comme ça. C'est une victoire de favori. Tu ne vois pas l'échapper à l'au bout, je suppose.
Je vois pas l'échappée arriver au bout sur ce format-là, d'autant que y a quand même y a pas mal de plats avant, donc je suis pas sûr que ce soit forcément des. Enfin, on laissera peut-être partir justement des gars pas hyper costauds justement pour aller les chercher derrière, pour voir qui on laissera partir. Mais ouais, ça me paraît être quand même un final bien difficile, enfin l'un des plus durs de ce Tour de France au niveau du final. Donc je pense quand même que les favoris vont essayer de s'imposer, au moins pour avoir une victoire de prestige sur le Tour. Et ouais, le Grand Colombier, après deux autres premières catégories, je pense que ça peut faire mal si on fait vraiment la course dans les deux difficultés précédentes. Je pense que ça peut faire mal à l'arrivée. Il pourrait y avoir des écarts. Et ceux qui ne seront pas en forme, ce sera en minutes que ça se comptera.
D'ailleurs, c'est peut-être une volonté des organisateurs de faire un tel départ sur le plat pour que il n'y ait pas une échappée de pur grimpeur et que le peloton des favoris puisse venir les chercher pour faire la grande bagarre. Arriver hors catégorie, le col du Grand Colombier, c'est 17,4 km, 7,1%. Enfin, c'est des cols qui ne sont pas encore entrés dans la légende du Tour de France, mais qui vont le devenir tellement ils sont durs. Il n'y a pas l'altitude, mais hormis ça, c'est fou. Et il restera une dernière semaine de course. Et cette dernière semaine, eh bien, on en parlera demain, puisqu'on va arrêter l'émission là, parce qu'on a malheureusement des impératifs. Donc, on va partager l'émission en deux. On s'arrête donc à deux semaines de parcours du Tour de France. Comme on l'a dit, on rentre dans les choses vraiment sérieuses. Rappelez-vous le début de l'émission où on parlait que tout pourrait se jouer dans les Alpes. Mais pour parler de ça, il faudra être là demain. Charles.
Ouais. Comme tu l'as dit, on est un peu pris des fois par des impératifs, forcément. Mais je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça aurait été dommage de speeder, entre guillemets, et de passer vite sur cette dernière semaine. Il y a plein de choses à dire et il y a des étapes qui seront captivantes, je pense. Donc on va prendre le temps demain de bien décortiquer tout ça, parce que vraiment ce final est magnifique. On aimerait aussi faire nos paris, donc on s'est dit que ça serait aussi dommage de rogner là-dessus. Donc comme on se trompe souvent en plus, c'est l'occasion de nous chambrer à la fin du Tour de France. Mais on va stopper là pour ce soir, parce qu'on s'était dit qu'on ferait un format 1 heure. Et on vous donne rendez-vous demain, donc on va vous préciser l'heure, mais ça sera entre 19h et 20h, hein, comme d'habitude, de toute façon, puis je te redonne la barre, machin.
Voilà, ces deux premières semaines, on a expliqué qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce qui pouvait se passer, les favoris, les échappés, le maillot vert, on n'a pas trop parlé du meilleur grimpeur, hormis pour la deuxième étape. Demain, là on va rentrer dans la course des favoris, c'est des arrivées au sommet. c'est là où le tour se gagne, jusque-là, il s'est perdu. Ou alors, gros coup de Trafalgar, et ça serait énorme que le tour soit gagné juste avant, ça fait depuis 2006.
Tiens, on peut répondre à la question de Stradri avant de quitter. D'ailleurs, je vois qui voyez-vous en jaune à une semaine de l'arrivée. Ce serait dommage de ne pas finir par un prono.
Oui, alors là, c'était le point que je voulais soulever aussi, parce que l'attitude, en fait, à l'entrée de cette dernière semaine, ça va dépendre de qui porte le jaune. Est-ce que c'est un vrai favori? Est-ce que c'est un favori comme Alaphilippe qu'il faut à tout prix lâcher? Est-ce que c'est un second couteau qui aura profité d'une échappée? Ça peut avoir son influence sur le déroulement de la
semaine. Moi, je dis Roglic.
Daniel?
Je pense que Roglic, avec son punch, tout ça, ou alors Alaphilippe, moi, je pas mal en Alaphilippe.
Tu penses qu'il serait au sort de cette étape encore en jaune?
Après l'arrivée, justement, c'est pas
sûr. Qu'il y a Colombie,
mais
là,
au matin de l'étape, je pense qu'il peut être en jaune.
Et Grégory?
Alors moi, je vais pas faire original, je pense à Roglic en jaune. Par contre, je précise que je le vois pas en jaune à Paris derrière.
Ah oui, non, moi non plus, hein, par contre, comme Grégory.
Mais moi,
mais après, il y a un peu de chauvinisme, parce que, pour finir là-dessus, moi, j'espère que Thibaut Pinot va gagner, comme je pense bon nombre d'entre vous sur le chat. Et j'espère qu'il ne sera pas en jaune trop tôt, parce que j'ai peur que la Groupama FDJ ait des difficultés, comme on l'a vu lors de la dernière étape du Dauphiné, pour sauver un maillot et le conserver. Donc, j'espère que ce sera Primoz Roglic en jaune au bout de deux semaines.
Alors, pour ma part, je vais aller chercher une grosse cote, je vais dire deux noms. Je vois Bardet, oui, quitte en rouge. Ah, en jaune, pardon. Des coureurs qui aiment les gros pourcentages. Bardet qui est très bon en descente. Et pourquoi pas un coureur qui a été offensif alors que les gros favoris se sont montés au train. C'est très, très compliqué. Vraiment, j'arrive pas à voir comment ça peut se passer. Peut-être que ça sera que des montées au rythme, comme j'en ai parlé au début, comme le Dauphiné. Avec Roglic.
Mais ce tour s'annonce captivant, c'est franchement, tu vois, d'habitude, ça fait
chier que ce soit en septembre, hein, parce qu'il y en a beaucoup pour l'air fêté, tout ça.
Mais blague à part, enfin, je vais finir là-dessus, c'est vrai que d'habitude, depuis ça fait quoi, 3 ans qu'on fait des émissions, on est souvent assez pessimiste sur le parcours du tour, et je trouve que pour une fois, on est vraiment optimiste et on a de quoi, hein, parce qu'il n'y a presque pas de purge, à part l'étape d'Île d'Oléron, puis après,
ouais, c'est normal qu'il y en ait. Après, sinon, on est Tour Catalogne, il n'y a que des grimpeurs.
Oui, voilà, puis on veut voir des sprinteurs, ils font le métier comme les autres, il leur faut des étapes, il n'y a pas de raison, ils n'ont pas moins de valeur que les punchers ou les grimpeurs. On a un super Tour de France qui s'annonce, on a de la chance qu'il arrive, parce qu'on a quand même vachement douté depuis ces derniers mois, donc... On attend tout ça avec impatience et ouais, on a tête à demain pour justement vous parler de la dernière semaine.
Stradi qui demande si Charman fait le Tour de France avec la clavicule cassée, ben, normalement non.
Non, il y a une erreur sur la liste, parce qu'apparemment il y a une liste qui est sortie sur le site du Tour en anglais où Charman est dedans, mais bien sûr que non, hein, Charman...
Non, c'était les présélectionnés, cet après-midi il y avait des gars, il y avait Taramae par exemple qui ne fait pas le Tour. Donc...
Que tout le monde ne le sait pas, mais les équipes sont obligées d'envoyer des listes plusieurs semaines, souvent avant les courses, donc ils cochent des noms, Charman était prévu, il y a eu la chute, ça n'a pas été enlevé, et c'est l'explication.
Eh bien non, je vois beaucoup de monde qui parle de Charman qui là je suis allé sur Twitter qui est annoncé pour le Tour de France à voir. Oh. Ben on en parle demain
on va
on dit à demain probablement même heure, de toute façon on le dira sur Twitter à quelle